À voix nue, Caroline Brouet, cette semaine avec
Nicole Garcia, dans l'ordre peut-être actrice et cinéaste. Voilà.
Deuxième épisode, fuir là-bas, fuir de l'Algérie à la France. Bonsoir Nicole Garcia.
Bonsoir. J'ai eu peur d'avoir donné hier une idée un peu sombre de mon enfance algérienne. Trop sombre. Mais c'est vrai quand même que malgré l'ambiance de plage, de soleil, de vie méditerranéenne, je n'ai pas grandi dans un monde très clair, très, très lumineux, très aimant. Mais j'étais gay pourtant. Voilà. Terre et lumière de contraste en Algérie. D'ailleurs, je crois que c'est de tous ces contrastes que mes films sont faits.
Vous nous le disiez dans la première émission, vous avez grandi dans une Algérie encore française. Vous avez grandi à Oran. L'Algérie était encore française, mais la guerre s'est déclenchée au début des années 50, en 1954. Autrement dit, vous aviez 8 ans. Vous n'êtes parti qu'en 1962. Est-ce que vous avez aussi le souvenir d'avoir grandi dans une Algérie qui se battait pour son indépendance? C'est-à-dire, est-ce que vous avez des souvenirs de guerre?
Oui, Oran était une ville qui était très protégée, beaucoup plus qu'Alger pendant longtemps de la guerre. On peut dire que la guerre est descendue dans la ville dans les derniers mois avant l'indépendance. Donc, elle s'infiltrait partout, la guerre, dans la cour de récréation. Il y avait celles qui se disaient pro-OAS et les autres qui disaient « mais pauvres ». Moi, j'étais très amie avec, elle s'appelait Joël Thomas, et ses parents étaient des instituteurs communiste. Et donc, elle regardait toutes ces filles qui étaient pour l'OAS, pour « mais non, on va rester ici ». Enfin, tout le monde répétait un peu ce que disaient les parents, c'était directement influencé par eux. Et elle disait « mais les pauvres, mais non, il faut partir, on va partir, on doit partir ». Mais elle pouvait pas se faire entendre ni dans la cour de récréation, ni ailleurs, puisque la majorité était dans cette sensation qu'avaient beaucoup de Français d'Algérie, comme une injustice, quelque chose qu'ils ne comprenaient pas, cette terre était autant à eux que, voilà. C'est vrai, ils avaient quelque chose d'assez immature politiquement, ces Français d'Algérie dont je suis, enfin, moi j'étais une enfant, mais je me suis trompée aussi parce que, un jour je dis à mon père, à table, quand on déjeunait, je dis, de toute façon, il est temps que ça finisse, il y a quelque chose de bien dans cette indépendance. Il m'a regardé à l'instant où je l'ai dit, cette phrase, je me suis dit, j'aurais jamais dû dire ça. C'est comme si je comprenais pas, effectivement, qu'à son âge, ce chavirement, ce départ, de tout ce qu'il a construit, de tout ce qu'il avait été là-bas, était quelque chose qui dépassait vraiment un entendement raisonnable, une situation politique. Et c'est vrai, c'était toute une société qui s'effondrait, au-delà même de la chose politique, et qui arrivait comme ça, qui partait sans le vouloir, sans l'avoir voulu, et... Vous dites fuite, c'était pas une fuite mon départ d'Algérie. Je dirais pas que c'est. Je le définirais pas comme ça. C'est. Enfin. C'est comme on profite d'un mouvement de foule pour se faufiler. Mon départ était programmé par la grande histoire, tout le monde devait partir, moi aussi, quoi. Et donc cette guerre, effectivement, qui descendait, on faisait on faisait des compositions françaises allongées par terre pour éviter les balles qui auraient pu traverser, parce que on était dans un lycée qui était un peu extérieur, enfin, juste sur les bords de la ville, aux confins d'une ville blanche, qu'on dit, ou à un moment donné, que dans tout dernier mois, quoi, mais vraiment un apartheid total. Et donc, les tirs de l'armée française. Et là, et c'est vrai, il y avait le couvre-feu. Et je me souviens des gens qui scandaient sur le matériel de cuisine, tout ça, les slogans de l'Algérie française. Et puis, dans la nuit noire, voilà. Puis, il y avait des endroits qui étaient plastiqués. Là, la guerre était à nos portes.
Avant, beaucoup moins.
Avant, moins. Avant, oui. Bien sûr, on savait bien qu'il y avait eu le putsch. On suivait bien tous les moments de cette crise politique.
Vos parents écoutaient la radio, par exemple?
Oui, ouais. La radio. La radio a joué un rôle très important dans la vie de mes parents, parce que, vous voyez, on a eu très tard une télévision, mais très tard. Et mon père, sûrement quand il mangeait sa soupe le soir dans son lit, il écoutait la radio. Et ma mère écoutait beaucoup la radio. Elle écoutait des pièces policières à la radio, l'après-midi. Quand je rentrais de l'école, elle avait même fermé un peu ses persiennes pour que le soleil ne la dérange pas. Donc sa chambre était dans la pénombre et elle écoutait ses pièces policières. C'est pas l'image la plus rassurante que j'ai eue de ma mère, mais je sais qu'il fallait pas la, voilà, il fallait pas la déranger. Elle était dans cette, oui, mais je comprends parce que elle avait besoin de fiction, sa vie amoureuse, sa vie voilà, avec moi, enfin, ne la satisfaisait pas, donc elle devait s'envoler comme ça grâce à ces dramatiques policières que diffusaient des chaînes de la France, comme on disait.
À vous entendre parler, Nicole Garcia, je me dis quand même, vous étiez une enfant née en Algérie, dont les parents étaient d'origine espagnole, et à qui on disait que vous étiez française. Eh ben, c'est particulier quand même de grandir avec toutes ces identités. Est-ce qu'à un moment ou un autre, vous vous êtes dit, mais je suis qui, au fond ?
Non, je suis qui, au fond, je me suis dit pour des raisons beaucoup plus fondamentales. Mais là, non, c'est vrai qu'on apprenait le français, il y a des livres français, on apprenait la neige, on n'avait jamais vu la neige. Je me souviens, il a neigé une fois, j'ai vu la neige une fois à Oran, et c'était incroyable, ces petites boules blanches qui tombaient du ciel, alors que, bon, voilà, c'était des choses comme ça, de climat qui étaient très différentes de celles qu'on pouvait lire dans les livres. Mais non, française d'Algérie, non, elle était vraiment très... Peut-être pas autant mes parents, mais mes tantes, dont j'ai déjà pas mal parlé, mais elles recevaient leurs vêtements. J'avais une tante qui était très coquette et fortunée, donc elle recevait ses costumes, ses robes, ses de Paris. On était très tournés vers la France, quoi, très tournés, trop tournés.
Vous disiez que vos parents étaient très, très attachés à cette Algérie française. Vous, en 1977, Nicole Garcia, vous avez tourné dans un film qui n'est pas anodin, puisque c'est le film de Laurent Henneman, adapté du livre d'Henri Allègue, La Question, livre très fort sur la torture en Algérie. Est-ce que vous l'avez fait déjà par conviction, vous-même, par nécessité politique ?
Non, mais je n'ai pas vu pourquoi je ne le ferais pas. J'aimais beaucoup Laurent Henneman, que j'avais rencontré avec Bertrand Tavernier, puis le sujet était passionnant. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer à mes parents. On ne contestait même pas les opinions des Français d'Algérie. On disait simplement qu'on racontait quelque chose de très grave, qui était la torture infligée par l'armée française. Et mes parents même étaient gênés que j'ai fait le film. Ils ne savaient pas comment leur dire à notre famille. Donc c'était. Et j'avais un parrain qui. J'avais un parrain qui avait fait l'Indochine, comme on dit, qui était officier de Légion. Et qui m'avait dit, tu veux que je te montre des photos que j'ai là de ce qu'on trouvait quand on arrivait dans les fermes, enfin nous l'armée, quoi, elle disait, avec des femmes, avec des seins coupés, tu veux que je te dise les horreurs de la guerre et pas seulement d'un seul camp. Et j'ai compris à ce moment-là que cette maison, qu'on appelait le Mastadal, était remplie d'albums avec des photos qu'il avait ramenées de massacres, de photos quand on arrivait effectivement dans les fermes et que je n'ai jamais voulu regarder. Mais c'était quand même un problème pour moi je me rendais compte que c'était quand même quelque chose de difficile pour eux. Déjà, je leur disais quand j'avais 15 ans que l'indépendance était inéluctable, quand je leur disais qu'on ne pouvait pas faire autrement, qu'il fallait qu'ils comprennent. Déjà, ils trouvaient que je traçais quelque chose d'eux. Alors donc, en plus, en faisant ce film, c'était... Mais bon, après, ils m'en ont pas voulu. C'est comme ça, les parents, ils pardonnent.
Alors quand vous aviez 15 ans, donc... Vous voilà sur un bateau, Nicole Garcia, depuis Oran, en route pour la France. C'est votre père qui vous a accompagné sur le port, mais vous êtes partie toute seule sur ce bateau. Vous vous souvenez de ce que vous ressentiez si vous étiez triste de partir ? J'ai l'impression que vous allez dire non, puisque depuis hier, depuis la première émission, vous dites que vous aviez quand même envie de partir vers le nord, vers là-bas. Oui. Vous vous souvenez de votre joie ou peut-être de la tristesse de laisser vos parents ? Je ne sais pas, de quoi vous souvenez-vous, disons, de cette traversée ?
Et mes parents avaient tellement peur pour ma scolarité qu'en fait ils voulaient absolument que je parte. On faisait à l'époque il y avait deux bacs, donc j'avais le bac qui arrivait. Et donc ils tremblaient. Donc ils m'ont envoyé, je crois, au mois d'avril pour que je puisse passer les épreuves du bac. Moi j'avais un peu d'appréhension toute seule sur ce bateau. C'est vrai, il y a mon père qui m'accompagnait et puis. Il y avait tellement de gens qui étaient là, des familles entières. C'était la sensation de l'exode. Et j'essayais de me dire, quand je voyais le bateau s'éloigner, que je voyais les falaises autour de Rouen s'éloigner, je m'interrogeais sur l'état. Est-ce que je pleure? Je pensais qu'il y avait des gens qui pleuraient autour de moi. Je me disais, mais moi, est-ce que je pleure? Non. Enfin, je pleure pas, non. Non. Enfin,
Vous
peut-être
sculptiez.
Que mon absence d'émotion m'étonnait, ne me plaisait pas tellement. Il me semble que je jouais mal mon rôle.
Il y avait des gens sur le bateau que...
Oui.
Que vous connaissiez, une femme en particulier.
Oui, oui, oui. Il n'y avait plus de place sur ce bateau. Mon père m'a trouvé... Voilà, il n'y a plus de place. Il y avait un jeune marin à qui mon père avait donné de l'argent pour qu'il me trouve une cabine. Il m'a dit, quand le bateau est parti, qu'il n'a plus vu mon père sur le quai, viens dans ma cabine. Et là, j'ai compris qu'il fallait mieux aller dans la cale que dans la cabine. Et à côté de moi, donc j'étais dans la cale pendant la nuit de ce voyage. Il y avait une femme qui était avec un enfant qui était un peu atrophié, difficile, dans un handicap, je ne me souviens plus lequel, mais et cette femme, je la reconnaissais parce que c'est elle qui était sur la place de l'église où j'allais tous les dimanches avec mes cousines, comme des petites. Là, on s'est broué à la sortie de la messe, ça nous avait semblé bien long, et avec les gâteaux pour le dimanche, tout ça, des scènes de la vie quotidienne. Et elle était là et elle mendiait sur la place. Et on était là un peu comme des péronnelles. On riait, on la trouvait, comme la cruauté d'ailleurs des enfants, comme ça devant quelqu'un qui faisait de la mendicité. Je pense qu'elle avait des grands voiles noirs. Elle était particulière aussi. Elle était comme déguisée, donc c'était une figure. Et elle était juste à côté de moi, et elle m'a donné des petits lus, pas de petits lus. Et là, je dis que quelque chose venait de changer, quoi, que ma vie venait de changer de cap.
Alors j'ai dit tout à l'heure que vous alliez en France. En fait, c'est pas la bonne expression parce que l'Algérie était encore française à ce moment-là. Vous partiez quelques mois avant l'indépendance. Vous disiez la métropole. Vous partiez en métropole. Vous nous disiez que vous connaissiez la métropole, puisque vous passiez des étés là-bas, quelques mois, là-bas. Mais là, vous êtes arrivé à Montpellier. Et qu'est-ce que vous avez fait à Montpellier?
Vous voulez dire pourquoi Montpellier?
Oui.
Montpellier parce que le mari de ma tante, sœur de ma mère, avait sa famille là-bas. C'était les Alquiers, ils étaient très... Lui était médecin, donc à Oran. Son frère était un grand philosophe, Ferdinand Alquier, et qui vivait à Paris. Mais leur mère et leur tante, elles commençaient à être assez âgées, elles habitaient, et elles ont eu la gentillesse de me recueillir pendant ces 2 années où je suis restée à Montpellier. Et donc, je suis rentrée dans ce lycée Clémenceau, à Montpellier, pour deux, trois mois.
Vous vous souvenez de l'accueil?
Oui. Un accueil assez froid, assez frais. Pas de ces deux dames qui étaient toutes mignonnes et tellement, tellement gentilles avec moi, mais d'un professeur de lettres. J'étais assise donc au fond parce que bon, j'étais toute nouvelle, quoi, la nouvelle dans la classe. Et la question, pourquoi était sur Stendhal? Et elle disait. Qu'avez-vous lu de Stendhal? Elle pose une question à toute la classe. Et, alors tout le monde a dit le rouge et le noir, la châtreuse de Parme. Et puis quand tout le monde s'est arrêté de parler, moi j'ai levé la main et j'ai dit Lucien Leven. Et elle m'a dit, vous avez lu, j'aurais jamais à faire ce ton, vous avez lu Lucien Leven là-bas? Et c'était comme si elle parlait d'une jungle que la civilisation n'avait pas pénétrée. C'était affreux. Je ne savais pas ce qu'elle entendait bien, mais enfin, c'est une époque où personne ne voulait ni ne pouvait plus comprendre. Tout ce grand retour. Mais cette phrase m'avait blessée et je rebasculais solidaire des Français d'Algérie. Et après, justement, j'avais raison qu'il fallait aller plus au nord et à Paris, je n'ai plus senti cette. J'ai plus ressenti ce regard-là. Mais ce regard-là est passé comme assez vite. C'était le tout début, quoi. C'était les gens comme ça. Ils pensaient qu'on faisait une invasion, surtout dans le sud. Qu'on arrivait en masse. Il a jamais rien été dit sur ce moment, quand même maintenant. Il me semble qu'on envoie des soutiens psychologiques pour rien et pour beaucoup. C'est parfait d'ailleurs qu'on les envoie. Mais là, Et des gens, des tout petits enfants qui arrivaient, qui restaient sur le port avec leur valise pendant. Et ça a été quand même un drame. Mais voilà, mais comme ça venait recouvrir quelque chose qui était tellement désiré par tout le monde et qui était juste en même temps, cette indépendance, mais on a. La politique gaullienne, pour ça, n'a pas. A eu des œillères, elle n'a pas voulu voir ce que vivaient 1 million de personnes qui arrivaient sur les rives de France.
Mais j'ai l'impression, à vous entendre, que c'était. Pour vous, en tout cas, moins l'exil qui était un drame, si tant est qu'il y ait eu drame hein, dans votre façon de vivre les choses, justement, mais que la façon dont vous aviez été mis, en tous les cas au début, un peu à l'écart, avec cette appellation de pied noir qu'on vous a accolé, et que si on vous avait, autrement dit, accueilli un peu différemment, peut-être n'auriez-vous pas ressenti de drame du tout, puisque vous aviez, vous, envie de partir, de toute façon. C'est une question hein, que je vous pose.
Mais j'en raconte cette anecdote parce que c'est vrai qu'elle était la chose que j'ai vécue vraiment, qui m'avait paru effectivement un signe de cette hostilité ambiante, ou en tout cas de ce non-désir de voir arriver tous ces gens d'Algérie. Mais j'ai pas été traumatisée par ça. Ça n'a pas été. Non, je le raconte parce que c'était ce moment historique, quoi, de ce retour des Français d'Algérie. Mais. Voilà, c'était pas.
Dans la pièce Royan, que Marine Diaye a écrite pour vous, et où vous avez incarné le personnage principal de l'institutrice, dans cette pièce, la figure de la femme, de la professeure de français, tout à fait, est née à Oran, puisque Marine Diaye, elle s'est inspirée, elle a écrit vraiment pour vous, donc elle s'est aussi inspirée de quelques bribes de votre histoire. Mais on sent une femme qui est déracinée dans la pièce. Vous ne vous dites pas déracinée?
Non, non, non. Pourtant, je revendique déracinée orientale, et en même temps, je n'étais pas déracinée, parce que j'avais une détermination qui m'étonne encore maintenant, qui m'étonne dans sa force, tant d'épreuves à surmonter pour n'avoir que le fait de vouloir être quelque chose d'aussi. On ne sait pas, le désir d'acteur, enfin un désir d'artiste, disons, c'est-à-dire de choisir de vivre dans un imaginaire, son chemin de vie étant à côté à un imaginaire, et de pouvoir vivre que comme ça, c'est tellement mystérieux et c'est tellement impérieux que j'en étais toute chargée, alors que je le disais vraiment à très peu de monde. C'était, je l'ai dit, j'ai fait croire un peu à mes parents que j'allais faire du droit à Paris, mais voilà, mais pas juste pour dire, quoi. Mais, voilà.
Et pendant longtemps même, vous avez, à ce point chargé d'autre chose, que vous avez occulté l'Algérie, que vous l'avez mise de côté, oubliée même.
Oui, oui, oui. Je crois que je vous dis ça hier, que j'étais comme un. L'Algérie, c'est derrière. Et d'ailleurs, je voudrais bien tout à l'heure vous lire 6 lignes de mon ami et co-scénariste de tous mes films, Jacques Fieschi, qui lui aussi est originaire d'Oran. Et que j'ai pas connu là-bas. J'ai mis beaucoup de temps. Je l'ai connu quand j'ai cherché un scénariste pour écrire mes films. Et je sais pas si la longévité dans notre travail en commun, on l'a jamais dit dans ces termes-là. C'était pas aussi d'être né là. Je sais pas. Parce qu'en plus, on n'était pas dans les mêmes milieux. Son père était chirurgien. Enfin, je n'ai même jamais croisé. Je me souviens pas de lui. Voilà. Ni lui, de moi. Mais sur l'Algérie, il a fait un livre qui est très beau, qui s'appelle L'âme à la mer, qui raconte justement, parce que lui, il l'a vécu, on l'a vécu tous de manière très différente. Le personnage, effectivement, de Royan le vit de cette manière, mais il y a des enfants, comme était Jacques, par exemple, qui, tout le voyage a été un déchirement. Il l'a vécu en tant qu'enfant, ce déchirement et cet exil.
Le texte, donc c'est 6 lignes Jacques Fieschi que vous aimeriez nous lire.
Oui. Oui, je suis tout à fait. Enfin, je pourrais dire ce texte, mais c'est de Jacques, donc je signale son auteur. L'enfance en soi est un pays à part entière, une terre lointaine, presque inatteignable. Et l'Algérie dresse encore un écran, donne un tour d'écrou supplémentaire à la mémoire. Pour les Français qui en sont partis au début des années 60, ce n'était pas seulement un pays qui basculait, emportant tout avec lui, mais une société tout entière qui s'effondrait. Ils avaient le sentiment d'appartenir à une société maudite dont il serait difficile de se réclamer ensuite et de convoquer la mémoire. Les Français d'Algérie ont été un peu les parias de cette histoire. il était plus simple de tout oublier pour se démarquer de ce destin. Voilà, c'était le texte, mais c'est vrai qu'il était plus simple d'oublier pour ne pas être assimilé. Voilà, c'était la honte dont je parlais tout à l'heure par rapport à des origines qui n'étaient pas considérées bien en Algérie comme les origines espagnoles. C'est ça que j'ai pu ressentir, mais voilà, maintenant, c'était aussi une sorte de truc surajouté qui était... et voulait faire un destin qui était lavé de ça, ben c'est vrai, il fallait... La seule possibilité, c'était de tourner le dos, comme on fait beaucoup, je crois, une génération. Et après, effectivement, quand on tourne le dos, quand c'est trop occulté, trop volontairement mis en cave, voilà,
ça remonte. D'une façon ou d'une autre.
Voilà.
On évoquait tout à l'heure le film de 1977, La Question, adapté du livre d'Henri Alleg. Il n'a pas été tourné en Algérie, puisque vous n'y êtes retourné que dans les années 80, lors d'un voyage officiel avec le président Mitterrand.
En Algérie. Le film a été tourné en Algérie pour l'ultime fin. Il y a des plans d'Alger. J'ai rendez-vous avec quelqu'un qui doit me renseigner sur la cache où est mon mari, enfin sur l'endroit où il a été arrêté. Et c'est un plan qui se, où on voit Alger, dans le soleil d'Alger. Mais c'était juste, on y est allé pour faire deux plans. Après, je suis retourné en Algérie, effectivement, en 81. Quand j'étais emmenée...
Dans un avion officiel.
Dans un avion officiel, voilà. Souvent, j'étais emmenée dans les avions officiels.
Oui, parce qu'il y a eu Chirac aussi, Jacques Chirac, en 2003, oui. Qui vous a repris avec
oui,
lui,
oui. Emmené. Mais le premier voyage était plus émouvant, parce que c'est vrai que l'avion officiel s'arrêtait à Alger, donc j'ai pris toute seule un petit... C'était ça, le retour, quoi. J'ai pris toute seule un petit avion qui faisait Alger-Oran, enfin, un petit avion en avion. Et il m'avait quand même flanqué gentiment d'un conseiller de l'ambassade. Et là, c'était le retour, quoi. Je suis allé voir cette droguerie que mon père avait donnée, puisque les biens avaient été naturalisés. Donc, j'ai vu cette droguerie, j'ai vu mon école.
C'était encore une droguerie à l'époque ?
Étrangement, non. Il y avait des sacs, j'ai vu des sacs dans la vitrine. Qu'est-ce que font ces sacs ? Des sacs à main. Et je suis rentré, et c'est drôle parce qu'il se souvenait de mon père, cet homme, et de la transaction qu'il avait fait avec lui. Bon, comme ça, sans... Et c'est drôle parce que là, je lui ai dit que mon père était mort. Et il m'a présenté ses condoléances comme si ça venait juste d'arriver. C'était étrange, comme si la mort était juste... venait juste de passer. Mais après, je suis allée à mon lycée, puisque j'ai regardé aussi tous les commerces qui étaient autour, parce qu'il y avait, une fleuriste et il y avait aussi une vendeuse de journaux. Enfin, un magasin de journaux, dans lesquels je passais beaucoup de temps. Hein, quand j'étais libre de le faire, j'allais du magasin de mon père et je rentrais dans les deux boutiques comme si j'étais, comme si c'était chez moi. C'était ma vie sous les arcades. C'était sous des arcades à Oran.
Et pourtant, la ville avait changé. C'était plus la même ville,
beaucoup,
évidemment.
Oui, la ville avait changé beaucoup, beaucoup. Ben, on retrouvait, c'est une ville haussmannienne, hein, Oran. On retrouvait ses balcons, mais c'est vrai que c'était une autre population qui était à l'intérieur. Donc, il y avait d'énormes antennes de télévision sur les fers forgés. Et puis, la ville, c'était un peu comme dans certaines villes africaines, quoi. Ils avaient, en tout cas pour Chirac, ils avaient repeint tout le trajet, quoi, son trajet, ce qui était là où il allait de l'aéroport au monument aux morts. Mais le reste de la ville était un peu abandonné, un peu crépusculaire.
À partir de là, Nicole Garcia, vous avez eu quand même des rapports réguliers avec votre pays d'origine, parce que vous avez joué dans L'honneur d'un capitaine de Pierre Schoendoerffer, c'était en 82. Et puis Outre-mer aussi.
Outre-mer avant.
De Brigitte
oui.
Rouen. C'était en 90.
Ah non, 90,
ouais,
pardon.
Je crois que c'est en 90.
Non.
Où là, vous incarniez l'aînée de trois sœurs confrontées à la perte du domaine familial. Et puis, bien sûr, en tant que réalisatrice, en 2009, avec Un balcon sur la mer, tournée là-bas, justement. Et c'est vous, cette fois-ci, qui avez emmené dans votre avion officiel, ou votre bateau, je ne sais pas, votre équipe, puisque vous emmeniez l'équipe de tournage, et puis les acteurs, Jean Dujardin, Sandrine Kiberlin, Marie-Josée Croze, pour tourner l'histoire de cet homme qui croit retrouver un amour d'enfance et qui est replongé, malgré lui, dans sa jeunesse, en Algérie, à la fin de la guerre, et où on aperçoit évidemment des bribes de votre histoire.
Oui, absolument. La matrice de ce film avait été un roman que j'ai eu de Murakami, qui s'appelle, je dis toujours mal le titre, « À l'ouest du soleil, au-delà de la frontière » ou l'inverse. Mais et c'était effectivement, il y avait ça, il y avait cette confusion sur une personne. Et c'est vrai que l'exil est une manière c'est un justificatif, c'est une compréhension de la confusion de la mémoire, parce que tellement de choses bougent, voilà, dans ce chaos et lui, petit garçon, un peu, avait fait ce voyage, et voilà, il confondait. Mais par exemple, c'est pas moi qui voulais parler d'Algérie, j'avais eu d'être cette histoire, il fallait trouver donc deux enfants, un peu à l'image qu'on avait connu à Oran, en état de guerre. Voilà, l'exil, ils partent, ils sont séparés, et je voulais le placer, je crois, au Nigeria. Et c'est Jacques qui me disait, mais pourquoi tu es dans un évitement absurde, pourquoi ne pas parler de ce qu'on connaît, de l'Algérie. C'était presque un peu un travail forcé de... Et d'ailleurs, quand je suis allé faire des repérages pour le film, plus rien ne m'émeuvait, quoi. C'est incroyable, la force de la concentration sur un film fait que on ne voit plus que, voilà, que son intérêt, et on n'est plus dans une quelconque retour d'émotion ou de retour tout court, quoi. Et c'était magnifique, et le personnage du jardin joue effectivement, alors qu'il n'était pas du tout il connaissait pas du tout l'Algérie, il joue très bien cet homme qui pense lui aussi avoir tout oublié. C'était pour mettre en scène en fait cet oubli volontaire, j'étais là que de tourner le dos pour se faire un autre destin, et qui revient et qui, quand il retrouve la... Effectivement, quand il retrouve la mémoire et sort de cette illusion de cette femme pour une autre femme, c'est là que voilà, ça ouvre la trappe, quoi, de sa mémoire.
Il est donc question d'une enfance dans les rues d'Oran. Rue d'Oran, où vous, à 13 ans, avez eu cette illumination, cette épiphanie, cette révélation que vous seriez actrice. C'est ce dont nous parlerons dans la prochaine émission. Bonsoir et merci, Nicole Garcia.
Merci à vous.
C'était À Voix Nue, chargée de programme Daphné Abgral, prise de son Yvan Turc, réalisation Félicie Faugère, une série de Caroline Brouet à réécouter et à podcaster sur le site de France Culture et l'application Radio France.